Salut, c'est Laurent Bertin et tu écoutes Atypique où nous explorons les parcours uniques de celles et ceux qui ont transformé leur vie pour devenir accompagnants. J'explore avec eux leur évolution, leur motivation, leur vision du monde et du changement, les obstacles surmontés et ceux encore à affronter pour qu'on puisse tous s'enrichir de ces échanges. Dans cet épisode 2 d'Atypique, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès, une praticienne en hypnose spécialisée en périnatalité. Une transparence touchante, Agnès nous ouvre les portes de son histoire personnelle, mettant à nu les vulnérabilités cachées sous une assurance apparente. Elle nous fait voyager à travers son parcours de l'univers des statistiques à celui plus intime de l'hypnose et de la périnatalité. Découvrez le voyage atypique d'Agnès qui éclaire les obstacles rencontrés pour se frayer un chemin vers sa spécialité, l'importance de l'authenticité, de l'engagement à long terme et de la puissance de la transformation personnelle qui naît de la compréhension de soi et des autres. Salut Agnès.
Salut.
Ça me fait plaisir de t'avoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ça fait un petit moment, ouais.
Et donc, tu te présentes rapidement, tu nous dis d'où tu viens, pourquoi tu es là, où tu vas, ce que tu fais.
Ok, donc moi c'est Agnès, j'ai 46 ans, je suis hypnothérapeute depuis 8 ans maintenant, et là ça fait 2-3 ans que je me spécialise sur les difficultés de la périnatalité, sur ces problématiques-là. Et puis en parallèle, voilà, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai deux grands enfants, famille recomposée, et je suis dans la région lyonnaise, dans l'Ain, mais à 20 km de Lyon.
Ok. Je vais commencer par les questions rigolotes. Tu vois comment, comment ça vient? Qu'est-ce que les gens seraient surpris de savoir sur toi?
Qu'est-ce que les gens seraient surpris de savoir sur moi? Il y a plein de choses qui me viennent en tête là, mais si je fais le tri... Ah, c'est dur comme question. Surpris de savoir sur moi. J'aborde assez facilement des trucs perso. Qu'est-ce qui serait surpris de savoir sur moi? Que je galère bien plus que ce qu'on pourrait penser.
Ouais, c'est-à-dire?
Je peux renvoyer l'image de quelqu'un qui est forte et tout ça. Mais il y a aussi une grosse part de vulnérabilité qui est pas loin derrière, quoi.
Ouais, et les gens seraient surpris de savoir ça?
J'ai envie de dire ça dépend desquels, mais ouais, je pense que les gens pourraient être surpris de ça, ouais. C'est pas ce que je mets en avant en premier, quoi.
Ouais, comme beaucoup de gens. Quel est le meilleur compliment que t'aies jamais reçu?
Meilleur compliment. Enfin, moi, je suis comme toi, j'ai du mal avec les compliments. Alors, meilleur compliment. Enfin, un truc de l'ordre de la loyauté, de la fidélité. En amitié, c'est ma sœur pour le coup qui m'a dit ça.
Ouais. Ok. Parce qu'une question que j'aime bien poser, que je pose souvent, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es levé le matin, tu dis tiens, je vais faire de l'hypnose, je vais accompagner les gens, je vais faire de la périnatalité. Qu'est-ce qui a créé le switch?
Alors, il y en a plusieurs des switches. Il y a le switch entre ma vie d'avant, où je faisais des statistiques dans un laboratoire de recherche, et où je me suis dit j'en ai marre d'être devant mon ordi et de mettre des gens dans des cases, parce que ça revenait un peu à ça, mon boulot. Et où je me suis dit je veux du contact physique. Enfin, du contact physique, de la relation, en fait. J'ai besoin de ça plus dans mes journées. Donc, ça m'a amené à me reconvertir, à faire un travail de... un bilan de compétences, en fait, qui m'a aidé à identifier ce vers quoi je voulais aller. Mais l'idée d'être dans l'accompagnement est venue tout de suite, mais je pourrais pas te dire pourquoi. C'était assez instinctif à ce moment-là. Après, le deuxième switch, c'est pourquoi aller vers la périnatalité et en particulier les difficultés de la périnatalité. Je crois que le déclic, il est que ce qui m'a amené quand même à me reconvertir à la base, c'est que j'ai eu des enfants et qu'il s'est passé des choses compliquées et que c'est ça qui m'a amené à bosser sur moi, à me poser des questions sur qui j'étais, à me connaître, en fait. Et j'ai eu envie d'explorer ça encore plus. Donc c'est ça qui a fait son chemin, qui m'a aussi amené vers l'hypnose. Et j'avais toujours au fond de moi l'envie d'aider les mères en galère comme moi je l'avais été à cette époque-là. Et j'ai mis du temps à trouver de quelle façon à qui je pouvais m'adresser, à trouver une vraie place là où il y avait un vrai besoin. Et puis après, c'est les rencontres de la vie qui ont fait que je me suis formée avec Chloé Elsener sur le désir d'enfant, la fertilité. Donc on était déjà autour de la périnatalité. Et puis après, il y a Stéphanie Ayou qui a ouvert sa formation aux difficultés de la périnate, au deuil périnatal. Et voilà, là, quand j'ai commencé à cette formation-là, le déclic, il s'est fait instinctivement. Et qu'est-ce qui s'est joué là? Maintenant, je peux le dire parce que c'était pas clair au départ. Mais ce qui s'est joué là, c'est OK, on est dans un endroit où les gens, ils sont dans une grande souffrance. Ils vivent des trucs trash. Et en plus, il y a ce que moi j'appelle la double peine, qui est le tabou. Et voilà, quand on parle de, je sais pas, de fausse couche, de deuil périnatal, enfin de perte d'un bébé, de difficultés en postpartum, c'est des sujets qui sont très difficiles à aborder en société parce que il y a tellement de douleurs là-dedans que pour les gens c'est difficile d'en parler. Et donc cette double peine-là, de je suis en train de vivre un truc hyper trash et en plus je suis pas entendue, je suis pas reconnue. Tu l'entends dans ma voix là, ça, moi c'est un truc insupportable et c'est un vrai moteur en fait. Là il y a une place à prendre, là il y a un truc à faire et là je me sens utile.
Ok. Et comment t'as bougé de l'hypnose plus classique, l'accompagnement qu'on voit post-formation, à ça, je veux dire, ton chemin, tes difficultés, comment t'as géré tout ça?
J'ai pris le temps de trouver ma façon, moi, d'accompagner dans les problématiques généralistes, on va dire. Je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise avec des accompagnements longs, avec des gens que je voyais évoluer. Parce que c'est ça que j'aime aussi, c'est voir les gens changer, les voir partir d'un point A et tout ce qui se passe pour aller à un point B. Et ça, c'est un truc que j'aime partout, pas que dans l'accompagnement. Tu vois, dans les émissions de télé où tu vois les gens qui arrivent et puis tu les vois grandir, évoluer, s'entraîner, etc. Ça me fait kiffer. Donc, les séances one-shot, ça m'intéresse pas, en fait. Et j'aime... ouais, ce truc-là. Donc, ça a déjà aidé à clarifier un petit peu mes types d'accompagnement, à me positionner aussi dans ma communication sur le fait que, voilà, c'est plutôt un moment où les gens vont prendre le temps de mieux se connaître. On est aussi beaucoup sur ce sujet-là, en fait, de mieux se connaître. Et donc, peut-être plus un travail identitaire. Je pense que, ouais, moi, j'ai plus de facilité à aller là-dessus, aider les gens à mieux comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent et vers quoi ils veulent aller. Que des trucs one shot, etc. Et puis après, je te dis, c'est des réflexions sur tiens, comment je peux aider les mères. J'ai essayé différentes choses, j'ai creusé différentes approches en termes de technique, mais vraiment en termes de sujets, de problématiques. Et au début, j'étais sur des sujets où il n'y avait pas de demande en fait. Les gens n'étaient pas prêts à payer pour être accompagnés sur ces sujets-là parce que la souffrance, elle n'était pas suffisamment forte en fait. Ça fait chier de dire ça, hein, mais c'est une réalité. J'avais ça en tête et je savais que c'était mon objectif. Voilà, je veux accompagner les parents. Je sais pas encore comment, ni pourquoi, ni machin. Et après, c'est effectivement les rencontres dont je t'ai parlé, les podcasts que j'ai pu écouter, les choses dans la vie qui m'ont. Ok, là ça m'intéresse, ça fait tilt. Là moins, je m'en fous un peu. Tout ça, c'est devenu assez limpide. Et franchement, là après, c'est à un moment donné, c'est devenu une évidence que, OK, c'est là que je dois être. C'est là que j'ai un truc à faire. Et puis voilà, l'évidence.
Quelque part, t'es parti un peu de ton expérience de vie, de ton chemin, de ce que t'as pu vivre dans ta vie de femme, de maman, et puis de tout ce que t'as écouté, c'est ça?
Ouais, même si j'ai pas vécu le quart de ce que vivent les femmes que j'accompagne, clairement. Hein. Ouais. Mais effectivement, ça vient des tripes, en fait, je pense que c'est aussi l'idée de. Enfin, moi, ce qui m'anime, c'est la blessure d'injustice, en fait. Donc, tous les endroits où il y a de l'injustice, ça va m'activer, me révolter. Et dans cet endroit-là, il y en a énormément. Donc, si je peux, moi, à ma façon, en mode colibri, participer à lever un petit peu cette injustice-là et en tout cas l'apaiser, j'ai gagné, en fait. J'ai gagné.
Ouais. C'est marrant parce que. Je parlais de ça dans un autre podcast, puis un truc dont je parle souvent, c'est le levier de souffrance. Mais de ce que tu évoques aussi est intéressant, c'est la même chose, c'est le levier de la blessure. Et très souvent, les gens, ils cherchent qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me met en joie, qui est aussi un paramètre important, c'est l'autre. Mais là, je pense que la source de trouver sa marque, son positionnement, son style, là où on se sent, comme tu dis, à sa place, dans ce qui nous touche et qui nous anime, qui fait que ça nous aide à passer les moments difficiles, etc. Ça part souvent d'une blessure personnelle, toi, qui est probablement travaillée pour plein de raisons, Mais c'est une blessure qui est à la fois une valeur, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça.
Donc il y a toujours cette dualité de ça, c'est un truc qui me touche, qui me blesse, et en même temps, c'est quelque chose qui me pousse, qui me construit. Et je trouve qu'il y a pas mal de gens qui réussissent. Ils ont cette source qui part d'une blessure profonde qu'ils veulent réparer, compenser dans le monde, qu'ils fuient en fait, mais en faisant des choses vers un objectif, vers des rêves et des envies. Donc t'es en plein là-dedans, c'est assez marrant.
Ouais, complètement. Le fait de prendre conscience de ça, ça aide aussi à se dire, ok, ça vient d'un truc qui à la base, j'assumais pas du tout. Tu vois, ce côté colérique, j'ai un côté un peu agressif et tout ça, un peu piquant. Je l'assumais pas avant. Et puis, l'extérieur me le renvoyait en me disant, mais c'est bon, calme-toi. Non, en fait, j'ai pas envie de me calmer. Et d'apprendre à utiliser ce truc-là pour en faire quelque chose. D'apprendre à les regarder, les côtés sombres qu'on a. Et en fait, ça, c'est un truc que je l'ai appris aussi avec toi, tu vois, que nos parts d'ombre, elles ont un truc intéressant à utiliser et qui est souvent bien plus fort. En tout cas, moi, dans mon cas, effectivement, c'est mes blessures qui m'emmènent vers quelque chose. Mon enthousiasme, il vient après. Après, quand je me rends compte que ce que je fais, ça aide des gens, là, ça vient l'enthousiasme. Et oui.
Ah, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé là-dessus, c'est de lire et de m'intéresser à Carl Jung, là, justement, qui parle beaucoup de ça, des shadow parts, donc les parts d'ombre, et comment aller les explorer, voir ce qui est chouette dedans, comment les intégrer en soi pour, comme tu dis, en faire une force, un levier, un truc plutôt qu'un problème, même si dans certains contextes ça reste un problème. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Et je pense que c'est pas mal. Et tu t'as soulevé aussi un sujet qui est pas souvent abordé, je pense, dans les formations, notamment les formations d'accompagnement rapide, genre hypnose, EFT, machin, les trucs où la promesse c'est une ou deux séances, ça va aller vite, tatata, ça va changer ta vie. Et comme toi, moi, au début, ça m'a posé un problème, parce que ce qui m'intéresse, toi, c'est l'évolution, comment t'apprends, comment tu grandis, comment tu rebondis sur tes erreurs, etc. Comment tu te découvres, comment t'apprends à te connaître, faire avec tes forces et tes faiblesses, enfin, la connaissance de soi, quoi. Et il y avait ce truc de... Je sais pas, moi, je le dis avec mes mots, mais tu sais que je me sentais pas à ma place dans cette espèce de truc de... Moi, j'appelle ça une forme de prise du pouvoir, ce qui est pas le cas, mais c'est ce qui résonne chez moi, hein, d'imposer presque une vitesse de changement à un truc, et en plus d'alimenter un système de l'immédiateté, tu vois, les réseaux sociaux, tout va très vite, la surconsommation des réseaux, des machins, etc. Et je pense que c'est bien que tu abordes ce sujet-là, c'est un truc qu'on retrouve assez fréquemment dans les gens que j'ai invités, mais cette envie de prendre le temps de voir les gens évoluer, et j'imagine que toi aussi au début, pour te connaître un petit peu depuis un moment, c'est un truc qui t'a posé un...
Oui.
Comment on fait pour trouver sa place dans à la fois le côté communication, marketing, pour gagner de l'argent, vivre de son métier, les gens veulent aller vite, et en même temps, avoir envie d'accompagner les gens sur du long terme, mais sans tomber dans les biais et les durées de la psychanalyse, du lacanien, ce genre de trucs, tu vois.
Ouais.
Comment t'as réussi, toi, à faire cette bascule qui est pas si évidente, je trouve.
Non, elle est pas simple. Et je pense qu'au début de ma pratique, j'étais un peu dans ce truc-là de... Ça se ressentait même, je pense, dans ma posture, dans ma façon d'être, de... Voilà, il faut bouger, il faut y aller. Enfin, moi, je suis quelqu'un aussi qui... Je suis capable d'y aller, de me bouger, etc. Et j'avais tendance à peut-être suggérer ça, tu vois, dans mes séances. Où c'était peut-être un peu pushy pour certaines personnes, etc. Il y a des gens à qui ça convient très bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et comment j'ai fait le switch Je sais pas, ça s'est fait progressivement. Il y a eu ce truc-là de j'ai pas envie de voir les gens juste une fois ou deux. Et puis je crois que j'ai vite senti que c'était pas moi et mon outil qui faisait changer les gens. Et ça change tout pour le coup.
C'est quoi
qui fait changer les gens? C'est de les aider à se comprendre. C'est de les aider à ouvrir les yeux sur ce qu'ils voient pas. C'est d'être là, d'être en soutien. C'est de les questionner. C'est aussi d'être soi, en fait. Tu vois, je parle de mon côté un peu pushy, de mes parts d'ombre et tout ça. Ces choses-là, je les mets pas sous le tapis quand je suis en séance. Aujourd'hui, je m'en sers autrement parce que je fais attention et que je sais en quoi elles peuvent être aidantes et en quoi elles peuvent être limitantes. Donc, je fais gaffe. Mais je les masque pas. Elles font partie de moi. et de montrer aux autres que finalement, enfin de montrer à mes clients que ouais, moi aussi j'ai des vulnérabilités, moi aussi je galère. Et ben c'est une façon de dire ok, mais en fait toi aussi t'as le droit quoi. Et vas-y là, dans ce moment-là, on s'autorise à être vraiment qui on est avec nos pensées qu'on n'ose pas dire aux autres, avec nos vrais états d'âme, et on enlève les masques en fait. Et ça se fait pas en une séance. Enfin, si ça commence dès la première, c'est sûr, mais c'est pas suffisant pour avoir une vraie relation de confiance avec la personne et l'amener à prendre son temps ou à faire à son rythme, mais à se dévoiler, ça prend. Ouais, je sais pas. Donc je suis pas en train de répondre à ta question, je me rends bien compte. Mais j'ai du mal à y répondre parce que je sais pas exactement comment j'ai fait passer de l'un à l'autre. Sans doute que ça a toujours été un peu là, que moi j'ai commencé par me regarder en face pour me dire attention à cet endroit-là, tu peux faire du mal si tu continues comme ça. Et ce truc-là, c'est comme l'injustice, le attention, je peux faire du mal, ça c'est un garde-fou chez moi qui est majeur. C'est ce garde-fou-là qui a fait que pendant longtemps, j'ai accompagné des gens qui avaient des problèmes qui étaient pas, ou des souffrances, on va dire, qui étaient pas trop intenses, tu vois. Enfin, les personnes qui ont vécu des traumas, etc., je les rencontre aujourd'hui, et je pense que j'en ai rencontré peu avant. J'ai pas du tout la même clientèle aujourd'hui. Mais heureusement, parce que j'avais pas les épaules, en fait. Parce que j'étais pas préparée, parce que je savais pas comment me comporter avec eux. Donc aujourd'hui, la différence, c'est que je n'ai pas du tout la même clientèle, c'est pas du tout des gens qui vivent la même chose, et ils n'ont pas du tout les mêmes besoins.
Tu savais pas comment, mais c'est pas faute de t'être formée, d'avoir fait du truc, tu vois.
Ben, j'étais pas formée au psychotrauma, j'étais pas formée au style d'attachement. Non, j'étais pas formée à tout ça. La formation de base d'hypnose, elle prépare pas à ça. Et le problème, c'est quand même un problème. Enfin, à la fois, c'est un problème parce qu'on va tous être amenés à rencontrer en cabinet des gens qui ont du psychotrauma et que ça s'accompagne pas n'importe comment. Et en même temps, je me dis, si j'avais été formée à ça dès le départ, ça aurait été sans doute trop. Moi, j'étais peut-être pas prête, moi qui venais d'un monde complètement différent que l'accompagnement. Donc finalement, ça s'est présenté au moment où j'étais prête à l'assimiler, à le comprendre, à prendre du recul. Et c'est très bien que ça arrive que là, c'est dans ces dernières années. Et maintenant, je me sens effectivement apte à accompagner des gens qui ne sont pas là pour changer, qui sont là parce qu'ils sont en grande souffrance. Et c'est pas la même chose du tout. Tu vois, la posture que j'avais avant, c'était mon intention de départ dans les séances, c'était aider les gens à changer leur angle de perception. C'est un truc que j'ai toujours eu, et moi qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Aujourd'hui, c'est toujours une de mes intentions en séance, mais c'est plus du tout la première. Ma première intention en séance, c'est je vous accueille comme vous êtes. Et ça change tout, en fait. Moi aussi, la posture, c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai envie de transmettre aussi. Sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais on voit bien que juste sur cette intention là de ok, on va vous faire changer de regard, donc il y a un truc où moi je suis déjà en train de faire quelque chose et emmener la personne de là à là, alors que juste de l'accueillir, dire ok, comment ça va aujourd'hui, enfin tu vois, d'être, il y a plus d'outils d'hypnose là, il y a juste de la relation, de l'accueil, de l'être, on n'est plus dans le faire du tout.
Ouais, ça fait partie des paramètres importants du changement. Je sais plus comment je disais ça à l'époque. Je disais vouloir faire à la place de l'autre, c'est l'empêcher de prendre sa place, un truc comme ça.
Ouais.
C'est un peu cette idée-là. Après, la posture, c'est un, comme tu dis, c'est un travail de longue haleine, mine de rien, parce qu'il faut se connaître, il faut évoluer, il faut savoir reconnaître ses limites, ses blessures, comme toi, l'injustice, le rapport à la colère. Bon, je suis un peu comme ça aussi, donc l'envie de pousser un peu les gens, d'être un peu provoque. Des fois, ça marche, des fois, attention, et ça peut faire du mal. Et donc, toutes ces questions que souvent les gens vont traduire en « j'ose pas, je me sens pas légitime, j'ai peur, je doute, mon Dieu, je suis nul », qui sont en fait, à mon avis, des leviers de motivation et d'évolution. C'est souvent ceux qui durent dans le temps, dans le métier, à mon avis, c'est ceux qui ont ces questions-là. Mais voilà, je dis pas ça plus pour ceux qui écoutent, mais...
Ouais, mais c'est tout à fait ça.
C'est un peu l'idée aussi de que les gens puissent ne pas se sentir seuls dans ceux qui écoutent, dans les difficultés, les problèmes... D'ailleurs, sur ce sujet-là, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées depuis ta formation jusqu'à aujourd'hui en termes de se faire connaître, développement d'activité, la pratique, celles qui te viennent en tête, et puis qu'est-ce que tu pourrais dire éventuellement à ceux qui nous écoutent, comment tu...
Okay.
J'ai conscience que ce n'est pas des questions faciles, hein, puis en plus, le podcast n'est pas préparé, donc les questions, c'est bah, allez, débrouille-toi avec ça. Mais c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est ce côté authentique qui ressort.
Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Déjà, quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais un salaire à côté. Donc, pendant toute la période où j'ai eu les deux activités en parallèle, j'avais pas besoin de remplir mon cabinet plus que ça. Il n'y avait pas d'enjeu trop important puisque j'avais un salaire à côté et puis un deuxième salaire par ailleurs. C'était pas du tout la question. C'était juste, c'était juste l'envie de faire cette activité et je me suis développée avec un site internet plutôt bien fait et avec de la pub Google Ads suffisant en fait. Ça m'a ramené suffisamment de gens en cabinet. Après, l'autre truc un peu qui n'a rien à voir, c'est que quand je suis sortie de formation, j'étais hyper enthousiaste, j'étais prête, j'étais top. C'était en juin. 2 mois plus tard, mon père décède. J'avais prévu évidemment de m'installer en septembre. Là, c'est plus la même en fait. Là, il se passe un truc qui est pas prévu, qui est brutal, qui est intense. Et l'enthousiasme, il est toujours là, l'envie, elle est toujours là, mais voilà, il y a un truc à digérer, il y a un truc à processer, et ça. Et là, j'accepte en fait de prendre ce temps-là. C'est-à-dire, je démarre quand même mon activité, mais j'ai encore moins d'enjeux. C'est juste, ok, on va voir comment ça se passe, et puis on va s'adapter au fur et à mesure. Et puis, la vie fait qu'il y a eu d'autres épreuves. Moi, j'avais l'intention de sortir de formation, et puis dans l'année qui suivait, de m'installer et de passer à temps plein sur l'hypnose. Et ben, au final, il m'a fallu, 6 ans, avant vraiment de lâcher mon salariat, parce que la vie a mis des embûches sur ma route, et que je pouvais pas être focalisée à fond sur l'activité, et que je ne fais pas partie de ces gens qui sont encore plus compétents dans l'adversité. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, dans l'adversité, j'ai besoin de digérer, de laisser les émotions s'exprimer avant d'être dans l'action. Ça a pris du temps.
Pardon, je te coupe, on en parlait dans un autre podcast. C'est différentes énergies, parce que moi, typiquement, c'est l'inverse. Moi, il faut que je plaque tout, je quitte tout, il faut que je sois au bord du gouffre, sinon je fais rien. Sinon, moi, la sécurité m'empêche de faire des trucs, tu vois. Donc, faut que je change d'arrêt, je me cherche des trucs qui me mettent en insécurité, en pression et en contrainte, parce que c'est là que je suis le plus efficace. Ça, c'est mon énergie. Ma femme, elle est un peu comme toi, c'est tout l'inverse. C'est si tu la mets dans cette situation-là, c'est le lapin dans les phares, c'est le stress, l'anxiété. En fait, ça bloque complètement l'énergie. Et je pense que c'est pareil, c'est des trucs qui sont importants dans la connaissance de soi, de savoir ce qui nous, là où on est bon en termes d'énergie, de motivation et d'avancer. Et d'être OK avec ça, parce que si on a une énergie comme la tienne, et on plaque tout. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, je vais devenir praticien en hypnose », et puis ils lâchent leur métier. Moi, je dis « Hop, hop, attends, ça dépend comment tu fonctionnes. » Et de vraiment prendre ce temps que toi, t'as fait. Puis en plus, il y a les aléas de la vie, les contraintes, surtout quand on est maman, on a des enfants, les machins, les trucs. C'est pas toujours évident, quoi.
Ouais, c'est particulier, mais c'est vrai que j'entendais beaucoup ça autour de moi. Mais de toute façon, moi, les pires moments de ma vie, c'est là où j'ai sorti les meilleurs programmes. Et moi, je me disais, mais qui sont ces gens, en fait? Qu'est-ce qui fait que chez moi, ça fonctionne pas comme ça? Et donc, oui, d'arriver à prendre le recul et de comprendre que, en fait, non, c'est juste pas mon mode de fonctionnement. Et c'est pas grave. Et oui, ça va prendre du temps. Et oui, ça m'a fait chier, en fait, de voir, quand tu vois tous les gens de ta promo qui ont évolué, qui ont monté des programmes, qui sont en train de faire plein de choses chouettes, et tu te dis, putain, j'aimerais tellement faire ça moi aussi, mais là, j'ai encore mon salariat, j'ai mes enfants, je suis seule avec eux, il faut que je remplisse le frigo, ça va pas être possible. C'est pas simple, mais sans cette forme d'acceptation, et aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là, c'est que j'ai conscience que j'ai jamais lâché. Pour moi, c'était une évidence aussi que j'allais pas quitter l'hypnose et le monde de l'accompagnement, en fait. Il y a eu un côté un peu résigné à un moment donné, de me dire, ok, ça prendra peut-être du temps, mais à un moment donné, ce sera le moment, et là, tu pourras faire ce que tu as envie. Et maintenant, là, au moment où je te parle, où je suis en train de le vivre, ça, c'est tellement... Voilà, c'est délicieux, quoi. Parce que ça fait 8 ans que j'attends ça, en fait.
vous avez pas l'image, mais il y a les yeux qui brillent et tout, bon, ça s'entend un petit peu dans la voix.
Donc, ça, c'est... Ouais, et pour le coup, c'est un message que j'ai envie de donner, parce que, oui, on galère aussi à plein de moments dans notre vie, ça veut pas dire que c'est fini et ça veut pas dire que on va pas atteindre ce dont on a toujours rêvé.
Une des forces de ceux qui arrivent à atteindre comme toi leurs objectifs, leurs rêves, leurs envies, c'est la persévérance, toi, même dans les moments difficiles, etc. Mais justement, qu'est-ce qui t'a fait tenir ? On a déjà un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui t'a fait tenir, toi, dans les moments peut-être de doute les... Moi, j'ai eu envie d'abandonner 50 fois, même sur le blog, Hypnoscient, enfin tout ce que je fais. J'ai dit, bon, allez, je plaque tout, je vais faire autre chose, je retourne à l'informatique, tu vois. Donc, même si ça ne dure pas longtemps, c'est...
Moi, j'ai pas eu ça.
Je pense qu'on est... T'as pas eu ça, toi ?
Moi, ça a toujours été une certitude que c'était là qu'il fallait aller et que d'une façon ou d'une autre, ça allait marcher.
Ça, ma
mais
question.
Je sais pas ce qui fait ça. Je crois que je suis comme ça. Je saurais pas t'expliquer qu'est-ce qui fait ça parce que j'ai pas forcément de modèle. En plus, j'ai pas d'entrepreneur autour de moi dans ma famille. Ou... Maintenant, j'en ai plein, mais à l'époque, non. Donc, je sais pas. Quand il y a un truc qui me plaît, je me donne à fond dedans. Mais par contre, tu vois, ça peut durer un temps et passer à autre chose. J'ai eu plein de hobbies qui ont duré un temps et après, je suis passée à autre chose. Mais il y en a certains qui sont toujours là depuis l'âge de 9 ans. Tu vois, je fais de la musique depuis que j'ai 9 ans, et ben, j'en ferai toute ma vie. Donc, il y a des choses comme ça.
Oui. Alors, peut-être que tu n'arriveras pas à répondre à la question, mais c'est un peu aussi l'idée. Mais c'est comment en toi, tu fais la différence justement entre des hobbies où tu vas durer un certain temps, parce que moi, je fonctionne aussi un peu comme ça, et les trucs qui durent dans le temps, comme l'accompagnement. Tu vois, c'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui fait que tu vas en abandonner un ou arrêter pour plein de raisons et pas l'autre?
Je crois que l'accompagnement, enfin, c'est observer l'autre et voir comment il évolue. Quand j'étais gamine, tu vois, j'étais une adulte dans un corps de gamine. Je me souviens d'écouter les conversations des adultes dans le salon et de m'intéresser à ce qui se passait alors que c'était pas du tout de mon âge. Donc j'ai toujours eu ce truc-là, d'écouter les gens, de m'intéresser à comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils racontent les choses. Donc ça, c'est déjà présent bien avant l'hypnose. Et je n'ai pas de relation, j'ai pas de potes, moi, tu vois. J'ai quelques amis, j'en ai pas des tonnes, mais les amis que j'ai, c'est des amis hyper intimes, hyper proches, en fait, où on va parler de tout. Moi, je suis comme toi, je peux pas parler de la pluie et du beau temps. C'est un truc que je sais pas faire. Il faut que ce soit tout de suite, enfin il faut, ça va naturellement tout de suite être assez profond, intense, on va aller voilà, toucher ce qu'il y a besoin là.
Mais, je suis complètement gauche sur le small talk, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je suis pas du tout à l'aise, on dirait un handicapé.
Ah, mais c'est pareil.
Mais dès que c'est un peu plus profond et émotionnel, je suis dans mon...
Ouais.
Ça fait penser à ce que moi j'appelle le génie au quotidien, là, tu vois, j'avais écrit un article. Je le mettrai en lien parce que ça intéresse, c'est comment trouver un sens qui tient sur la durée, c'est d'aller puiser justement ce que tu dis dans l'enfance, dans les souvenirs, les activités, et d'aller chercher ce qui nous anime dedans. Toi, on voit bien que c'est l'intérêt, découvrir, apprendre peut-être des autres, des gens, de ce qui est autour de toi. Et moi, je fonctionne un peu comme toi, mais moi, il y a des activités. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre, tu vois. Donc, il y a des activités. Une fois que j'ai le sentiment d'avoir, ok, bon, j'ai fait le tour du truc, j'ai compris comment ça marche. Si c'est trop difficile, j'arrête. Enfin, toi, si l'énergie que ça me demande de progresser est trop importante, me prend trop de temps, je vais arrêter. Ça m'est arrivé au golf, notamment. S'il fallait que je joue tous les jours et que je m'entraîne pour maintenir le niveau que j'avais. Et dans l'humain, bah, il y a pas de fin. Il y a pas de... Et comme c'est toujours, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu as du mal à répondre à certaines questions, parce que tu te bâchais pas, ça s'est fait avec le temps progressivement. Et je pense que moi aussi, c'est un truc que j'aime bien, c'est que c'est progressif, on apprend chaque jour, chaque. Ouais, je m'emballe un peu, mais c'est intéressant ce.
Ouais, et puis on n'a pas fini de comprendre l'humain. Et plus on. Enfin, tu vois, plus je me forme sur des sujets. Me former au psychotrauma ou au style d'attachement, ça m'a ouvert des portes, des grilles de lecture, des trucs encore plus. Diverse et qui m'a aidé à mieux comprendre aussi ce qui se passait en face. Donc il y aura toujours des trucs à apprendre, à comprendre et on est tous différents. Donc y a toujours des trucs intéressants. Mais en fait, ce qui est marrant quand je t'écoutais, je me disais, moi il y a un truc, c'est que j'aime observer les gens, j'aime les gens, mais pour les observer. Pourtant, mes proches te diraient que je suis pas quand même quelqu'un qui aime beaucoup les gens dans. C'est très paradoxal, c'est-à-dire je peux être.
Je connais
oui,
bien.
Bah
ça,
oui, bah oui. Moi, je suis pas quelqu'un, encore une fois, quelqu'un qui a plein de monde autour de moi. Je suis très bien seule. J'aime bien les petits comités, j'aime bien les tête-à-tête. Et c'est là où je suis à l'aise, en fait. C'est vraiment... Je me rends compte en cabinet qu'il y a plein de gens que j'aime écouter. Enfin, tu vois, dans les séances, j'aime découvrir leur parcours. Si je les rencontrais dans la rue ou dans une soirée, sans doute que je n'irais même pas discuter avec eux. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est que l'accompagnement, il me permet d'aller rencontrer des gens qui ont des parcours de vie, des histoires, des façons de fonctionner qui sont très, très différentes de la mienne et que j'aurais sans doute pas connues si je faisais pas ce métier-là, quoi.
Ouais, c'est marrant que tu dis ça, ça me fait penser à un truc sur lequel j'avais pas forcément fait de lien. Moi, j'ai été beaucoup joueur de jeux vidéo en ligne, beaucoup. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est le groupe et la communauté. Et j'ai toujours dit, et c'est en t'écoutant que je me dis, putain, mais ça vient de me percuter la tête, que j'ai toujours dit, ce qui est génial là-dedans, c'est que tu peux discuter avec un mec qui a 60 piges, qui est chef d'entreprise depuis 30 ans, un jeune de 17 ans qui est encore au lycée, un autre qui a 24 ans, qui est entrepreneur nomade et qui joue de temps en temps, toi, et cette diversité par la connexion du jeu en ligne, etc. Et on la retrouve aussi dans l'accompagnement, t'as des profils complètement différents qui arrivent et je me rends compte que le podcast, là, l'intention de base, c'est de... Parce que moi, je suis tout seul, je travaille de la maison, je vois pas grand monde, tu vois, donc je me dis, c'est l'occasion de re-rencontrer des gens, soit des gens comme toi que je connais déjà, mais de les redécouvrir autrement, et de garder cette fibre... Ouais, je vais le noter dans un coin, ça, parce que c'est important.
Ouais, cette fraîcheur, c'est... Ouais.
Ce plaisir de la rencontre de gens... différents que tu rencontrerais pas, et comme tu dis, que peut-être t'aborderais pas dans une soirée pour plein de mauvaises raisons. Et puis ça me fait penser aussi que moi, pendant longtemps j'ai dit, maintenant j'essaie de plus le dire, que j'aime pas les gens, ce qui est pas vrai, j'aime pas la surface, l'hypocrisie, etc. Mais après, les gens posent des trucs dessus. Je vois, la dernière fois je fais une formation et j'ai dit un truc, j'aime bien être tranquille pendant les pauses, ils me voient, et en fait les gens viennent plus me parler. Tu vois,
oui.
Parce qu'il se dit, je veux pas te déranger. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit, tu vois. Ah bah... Donc j'essaye de trouver la forme de com. Je pense que pendant longtemps, ça a été une forme de défense. Et putain, ça fait quand même un paquet de temps que je suis dans l'accompagnement et que j'en parle. Tu es en train de me faire ma thérapie sans faire exprès. Et je me dis, il faut que je dise ça parce que c'est pas vrai. J'aime bien être tranquille, mais j'aime bien les gens quand même. Tu vois, je me rends compte, je parle avec tous mes voisins, depuis que j'ai des chiens, je connais tout le monde, je connais les histoires de tout le monde, leur vie, leur machin, des trucs. C'est pas du tout dans mon énergie de base, qui était celle de la protection. Alors que là, quand je prenais les chiens et que je croise pas un voisin, je me dis merde, je suis tout seul. J'ai pas de... Bref, voilà, je suis un peu parti dans mon trip, mais c'est...
Non, mais c'est marrant parce que ça s'observe de l'extérieur aussi. Justement, moi qui te connais depuis longtemps... Voilà, je t'écoute moins maintenant parce que j'ai d'autres choses à faire, mais je ça s'entend, d'accord. Bah excuse-moi, hein. Mais ça s'entend justement ce truc-là.
Oui, ah bah c'est cool, ouais. Parce que c'est un truc sur lequel j'ai posé mon attention, ça j'aurais pu que ça se sente, même le ton dans le podcast, les trucs que je fais tout seul, c'est pas la même énergie qu'avant, et c'est un truc qui me plaît bien, qui est pas facile parce que j'ai l'impression de me mettre un peu à poil sur certains trucs, ouais. Donc c'est chacun son chemin, comme tu dis, on évolue. À chaque fois, mais c'est... Bon. Une question que je pose dans tous les épisodes que j'ai récupéré dans le podcast de Tim Ferriss, parce que je la trouve marrante, c'est si tu avais un gigantesque panneau d'affichage ou n'importe où, enfin, qui pouvait parler à plein de gens, qu'est-ce qu'il y aurait dessus et pourquoi ?
Qu'est-ce qu'il y aurait dessus et pourquoi ? Un truc du genre... Enfin, ce qui me vient là... J'ai envie de mettre plutôt une image, mais ce qui me vient, c'est des mots, en fait. C'est tu es légitime. Quoi que tu sois en train de vivre, tu es légitime, tu as le droit.
Ouais, et pourquoi tu dirais ça ?
Parce que je crois que c'est un sujet très très répandu de pas se sentir légitime dans sa peine, dans sa souffrance, dans ses galères. C'est trop répandu. rien que d'être reconnu. Autorisé à vivre ce qu'on est en train de vivre, quoi que ce soit, c'est déjà énorme en fait. Ça aide vachement à ne plus juste être focalisé là-dessus sur ce jugement qu'on porte sur soi-même. Je devrais pas vivre ça, je devrais pas être comme ça. Ça fait partie de ce que moi j'appelle la double peine. C'est une autre double peine qu'on s'inflige à soi-même. Mais...
Ouais, je pensais à ça parce que j'ai un pote que tu connais, mais qui a vécu un truc très difficile il y a quelques mois. Et lui, il a la triple peine. Et moi, parce qu'on se parle souvent, je l'ai aussi, parce qu'une période, là, je ne l'ai pas trop bien, ma femme était un peu malade, enfin bref. Mais je ne m'autorisais pas à lui en parler, parce que je me dis, bah, pour le faire chier en plus avec mes problèmes. Et lui, de son côté, il se dit, bah, plus personne ne me parle, parce que les gens, ils n'osent plus, parce que j'ai vécu un truc difficile. Et donc, ça renforce le... Ouais. Le problème, parce que les gens s'éloignent en fait en faisant ça, et donc on en a parlé là, il y a pas longtemps. Là. Je crois que c'était c'est un sujet important justement, cette légitimité de la souffrance de chacun et sans avoir à la comparer. Évidemment, tu veux pas te dire ah là là mon Dieu, l'émission de télé hier elle a été annulée alors que l'autre il a perdu son parent, tu vois. Mais de pouvoir quand même continuer de partager ses souffrances et ses de parler aux gens.
C'est un truc qui revient souvent, ça. Mmh. Les gens qui sont dans une grande souffrance, ils ont aussi envie qu'on leur parle de nous, de nos difficultés. Ils ont envie d'être dans la vie, en fait, et pas d'être mis de côté parce que... oui, en plus, ça amplifie le truc. Ouais. Quoi, donc, ouais.
Moi, je crois que les trucs qui m'ont le plus touché en séance, c'est justement quand je parlais de l'autorisation aux gens. Je disais, mais vous avez le droit de ressentir ça. Il y a plein de gens qui vivent des difficultés et tout. C'est OK, quoi. Et tu sens l'espèce de libération. Il n'y a pas d'outil, il n'y a rien. J'ai juste une autorisation A.
Et c'est vachement plus puissant que... parce que, tu vois, la plupart des gens, ils viennent quand même pour changer un truc. Enfin, je pense notamment, moi, je reçois... C'est pas étonnant. Il y a plein de gens qui ont plein de colère et qui me disent « je voudrais plus de colère ». Et en fait, c'est contre-productif de vouloir l'éteindre, la colère. Donc la première chose, c'est « ok, mais en fait, elle a le droit d'être là, cette colère ». Et c'est pareil pour la tristesse, pour n'importe quelle émotion, et de la légitimer, de l'autoriser, c'est la première étape. Et sans celle-là, à mon avis, on est en train de renforcer le mécanisme. On n'ira jamais très loin, quoi.
Ouais, c'est la différence que je fais, moi, entre l'acceptation, « ok, j'ai de la colère », et l'intégration, c'est « ok, je la légitime, je l'autorise, je la reconnais quand elle s'exprime, je sais l'utiliser quand elle est... quand c'est un moteur, comme toi, et je sais l'apaiser quand elle est déclenchée par des trucs qui ne sont pas forcément importants. Quoi. Donc c'est un chemin. On va terminer là, si tu as envie de terminer avec un truc que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent, nous dire un peu... Dans la description du podcast, je mettrai où on peut te trouver, c'est les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, etc.
Ouais, peut-être un truc qui me tient à cœur et qui, moi, m'a aussi pas mal aidé, c'est de m'intéresser au public que je reçois et aux particularités, aux spécificités du public que je reçois pour, mieux on les connaît. C'est pareil que la connaissance de soi, mais la connaissance des autres aussi, ça marche. Mieux on les connaît, mieux on sait ce qu'ils sont en train de traverser et mieux on peut les accompagner. Et souvent, en faisant moins. Ça passe souvent par là, en fait, d'en faire moins.
Ouais. Et oui. Le minimalisme thérapeutique.
C'est ça.
Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, c'était cool de t'avoir.
Merci à toi, c'était chouette.
Et puis, merci à tous d'avoir écouté. Et je te dis à très vite.
À bientôt.